Nous sommes presque à la mi-août, il fait un temps magnifique et le temps a un peu d'importance par rapport au lieu où nous sommes. Nous sommes à Percé, c'est le lieu magique québécois par excellence et dans un point de vue qui est aussi la carte postale que tous les Québécois connaissent et beaucoup de gens même à l'extérieur du Québec et du Canada, où l'on voit donc du haut du pic de l'Aurore sur la galerie duquel nous sommes actuellement, on voit ce rocher percé là à nos pieds avec les Trois Sœurs, avec l'île Bonaventure qui s'étale, une vue tout à fait classique de Percé, un paysage magique et peut-être aussi un peu avec un personnage magique que nous saluons ce matin qui s'appelle Vladi Stevanović, qui est d'origine serbe, qui est d'origine yougoslave. Il n'est pas avec nous pour ça du tout, surtout pas de ce temps-ci. C'est un monsieur qui s'occupe, c'est un grand mot en fait, qui a consacré sa vie maintenant, je pense, au Taijiquan. On parle un peu d'abord, avant de parler de vous, de qu'est-ce que c'est que cette discipline. Est-ce une discipline d'abord?
Oui, c'est une discipline dans le sens large, dans le grand sens du mot. C'est une recherche, c'est quelque chose qui, lorsque c'est fait sérieusement, engage vraiment toute l'existence. C'est un mode de vie, c'est une pratique, c'est une philosophie, c'est tout ça en même temps. Et surtout de la façon dont nous l'enseignons, nous le pratiquons, c'est vraiment un engagement total. Cette recherche est basée d'abord sur une recherche corporelle. L'approche est d'abord corporelle, mais il faut comprendre que dans l'esprit des Chinois et des Asiatiques en général, le corps et l'esprit ne sont pas séparés. C'est une et même chose. Pour atteindre des sommets dits spirituels dans notre langage, il faut passer par le corps. On ne peut pas atteindre des sommets spirituels sans passer par le corps. Et surtout, on ne peut pas les atteindre en dissociant le corps de l'esprit.
Donc, il s'agit, on reviendra très en détail au cours de cette série d'émissions qu'on va faire avec vous sur cette discipline-là. Pour qu'on ait une référence pour des gens qui sont moins familiers avec cette discipline, il s'agit bien du tai chi quand on voit les Chinois dans la
c'est
rue
faire l'exercice. Ça.
Hein? C'est ça, quand on les voit faire des exercices qui ont l'air au ralenti.
C'est ça. Ça se fait de façon très, très lente et c'est coordonné avec la respiration. Et donc, on essaie de respirer très lentement, de remplir bien les poumons et en même temps d'exécuter des mouvements qui se font à l'inspiration ou à l'expiration.
En même temps, on va garder les gens en haleine sur cette respiration-là, Vladi. Je voudrais qu'on parle un peu de vous. Vous avez fondé cette école donc de la voix intérieure où on va au fond des choses dans cette discipline et on va y revenir en détail au cours des émissions qui vont suivre. Mais il faudrait parler de vous, de votre cheminement. Vous avez quel âge maintenant?
J'ai 68 ans.
Ouais, vous faites passer parfois pour un centenaire, mais vous n'êtes pas centenaire.
Pas encore.
et on est accompagné également de votre femme, qui est, je pense, relativement plus jeune que vous, et de ce jeune fils-là.
C'est ça, lui, il a 5 ans.
Ça a commencé comment tout ça? Vous êtes né où, Vladi?
Je suis né en Yougoslavie, à Belgrade, en 1925. Et ma mère était belge, mon père était serbe. J'ai reçu une éducation à la française, j'ai fréquenté des écoles françaises en Serbie, en Yougoslavie, ça existait déjà à cette époque-là. Et donc ma formation, ma langue, disons, normale, naturelle, c'est le français. Mais évidemment, j'ai reçu aussi l'éducation du pays, je suis un peu, non pas un peu, beaucoup serbe aussi. mais seulement, ça fait partie d'un passé tellement lointain, je suis parti, j'ai quitté ce pays dans les années 48-49, vous voyez un peu, ça fait longtemps. Et je peux dire que même j'ai un peu oublié la langue serbe. Je me sers du français, j'écris en français et je pense en français. Mm-hmm. Mais mon enfance, évidemment, s'est passée là-bas. Et j'ai reçu donc une éducation mixte, double. En même temps, j'ai été imprégné par ces traditions serbes qui sont puissantes, qui sont vraiment dominante dans l'éducation des enfants. Je peux m'étaler, m'égarer un peu.
Non, oui, égarez-vous.
Il faut dire que la Serbie est un pays qui a été sous domination, sous occupation turque pendant 5 siècles. Et c'est avec un grand souci de sauvegarder l'esprit national serbe, que les enfants ont toujours été éduqués contre quelque chose, non pas pour, mais contre quelque chose, contre le dominant, contre la domination des Turcs, etc. Et c'est resté après la libération, après 5 siècles de guerre.
Et on voit ce que ça a donné.
On a parlé de guerre de 30 ans et même de 100 ans. Là, c'est une guerre qui a duré 5 siècles, 500 ans. Et donc, dans l'éducation des enfants, cette emprise de l'esprit serbe est restée, même après que ce n'a plus été nécessaire, parce que la Serbie faisait partie de la Yougoslavie, etc. Mais j'ai été éduqué dans les traditions serbes aussi. Ce qui fait que je suis profondément marqué par les deux civilisations, par les deux approches.
Est-ce que les autres, on va compléter un petit peu la parenthèse, puisqu'on y est en Yougoslavie, que c'est tellement grave, oui. Ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Vous avez été éduqué, les Serbes étaient éduqués contre quelque chose. C'était la même chose pour les autres nationalités, les autres factions aussi, alors?
Attention, j'ai bien dit contre les Turcs, non pas contre les Croates. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Cet antagonisme entre les Croates et les Serbes, entre les Serbes et les dits musulmans, qui sont d'ailleurs des Serbes, mais de religion islamique. Donc ça, c'est tout récent. Ce dont je parle, c'est cette tradition d'un farouche nationalisme serbe, ça c'est quelque chose qui était dirigé contre l'envahisseur, contre l'oppresseur, contre les Turcs, qui, il faut le dire, ont été d'une férocité inimaginable, qui ont maltraité, torturé, qui ont fait des choses dont on ne peut même pas imaginer les possibilités dans nos pays occidentaux. Donc, j'ai vécu tout ça, enfant, j'ai été marqué par ça, et c'est resté, et c'est ineffaçable. Mais, au fond, je suis français maintenant, je suis un occidental en bonne et due forme, et je me suis consacré à une recherche qui me fait voir tout ça maintenant de très loin. Je me sens même pas concerné actuellement, aujourd'hui, je ne me sens même pas concerné.
Ça va vous émouvoir quand même un peu, comme ça.
Ça m'émeut comme ça m'émeut de savoir qu'il y a des enfants affamés au Biafra ou de savoir qu'en Afghanistan, on s'entretue. Pas plus. Non.
D'accord. À quel moment, donc, êtes-vous parti de la Serbie?
Je suis parti, je crois, en 1948 ou 1949. Bah, plus très bien le moment précis, mais donc, vous voyez, j'étais encore jeune.
Et vous vous rappelez de l'occasion?
Oh oui, je m'en rappelle. Oui, et faut-il tout dire?
Bon, il faut tout dire, vous êtes au confessionnal.
Voilà, eh bien, je vais tout dire. J'ai été à la tête d'une révolte d'étudiants à l'époque contre l'esprit militariste que Tito introduisait dans les universités. Et j'ai été mis en prison. Je ne parlerai pas de tout ce qui s'y est passé, mais j'ai réussi à m'évader et j'ai traversé la mer Adriatique dans une petite barque en fuyant donc le régime de Tito, les persécutions.
Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Pourquoi vous ne voulez pas parler?
J'en ai parlé dans mes livres. C'est très difficile d'en parler de vive voix comme ça. Il y a des mots qui... Pour ceux qui écoutent, ne signifie rien, mais ceux qui l'ont subi sont des choses inoubliables. La torture. De dire. Le mot, c'est déjà remuer des souvenirs qui sont tellement, tellement profonds, tellement épouvantables que... Enfin.
Tellement épouvantables qu'il a donc fallu les fuir et vous partez en barque à travers l'Adriatique.
C'est ça. J'ai traversé avec un copain... La mer, en Adriatique, nous avons voyagé pendant 2 nuits à 1 jour pour traverser ce petit bout de mer. Mais c'était une petite barque avec un moteur qui est tombé en panne en pleine mer. Et c'était l'aventure, c'était vraiment l'aventure. Mais c'était aussi, je crois, le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. On touchait la mer avec la main. Et on a traversé cette mer où on ne voyait plus que de l'eau. Des vagues qui nous emportaient. En cours de route, nous avons rencontré un bateau de pêche italien qui nous a donné l'huile qui nous manquait pour le moteur et une pièce qui, qu'ils avaient, qui nous manquait pour le carburateur, et nous avons pu continuer notre voyage. Nous avions choisi la liberté et nous sommes arrivés en Italie, dans un petit port où nous voulions aborder, accoster, mais il y avait les carabiniers italiens qui nous attendaient déjà, qui nous ont vu arriver. Et à la sortie d'une prison, nous sommes entrés dans une autre. Nous sommes allés en prison en Italie. C'était donc...
C'était une amélioration.
Le premier contact avec le monde occidental, c'était encore une fois la prison. Oui, évidemment, la prison italienne, c'est un hôtel grand luxe comparé à ce que nous avons vécu en Yougoslavie. Et nous y sommes restés pendant quelques mois, puis ensuite on nous a mis dans un camp de réfugiés, qui était en fait un camp de concentration, il faut le dire aussi, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les miradors, les flics avec les mitraillettes et tous les traitements qui sont réservés d'habitude.
Belle initiation à la liberté.
Voilà. Ouais. Enfin, c'est du passé tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi nous nous sommes égarés tellement.
C'est pas égaré, on va arriver quelque part comme vous y êtes arrivé vous-même, on va vous suivre simplement à la trace. Vous sortez donc un jour de ce camp de concentration en Italie et vous êtes libre pour vrai à ce moment-là, on vous accorde une nationalité, non?
Pas tout à fait, ça aurait été trop beau. J'avais de la famille en Belgique et la Belgique m'a accordé l'asile politique. Je suis arrivé en Belgique, mais à cette époque-là, ça aussi il faut le dire, il ne faut pas l'oublier. À cette époque-là, en Belgique, on n'accueillait pas les étrangers comme ça. Il fallait d'abord passer par la mine. Et il y avait 5 ans de mine à faire avant de pouvoir avoir le droit de vivre en Belgique et de bénéficier pleinement des droits des étrangers. Aujourd'hui, tout ça est très différent. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, mais à l'époque, c'était bien comme ça. Et
Les travaux forcés, quoi, pour
obtenir... Non, on était payés. Non, c'était des travaux.
Mais le travail était obligatoire.
Mais seulement, on devait passer par la mine, voilà. C'était, en quelque sorte, payer un droit d'entrée. Ouais. Mais on était traités en pleine liberté, on était des ouvriers, des travailleurs. Mais le travail, c'était ça. Et donc, pour éviter ça, je me suis réinscrit au conservatoire de musique et j'ai bénéficié alors d'un statut d'étudiant, ce qui m'a permis de rester en Belgique sans passer par la mine.
Vous aviez déjà commencé l'étude de la musique en Yougoslavie?
J'avais déjà fait des études de musique en Yougoslavie, oui. Et d'ailleurs, j'ai commencé à apprendre la musique à 6 ans, c'est-à-dire très tôt. Et j'ai continué, j'ai terminé ma carrière de musicien après 22 ans, je crois, d'études, plus.
Et vous jouiez quel instrument?
J'avais commencé le violon, puis ensuite je suis passé à la clarinette à l'âge de 14-15 ans, 13 ou 14 ans. Et puis ensuite, ça a été le hautbois. Mon instrument était le hautbois. J'ai fait une petite carrière de musicien professionnel en tant qu'oboïste.
En Belgique?
En Belgique aussi, oui. En Belgique, en France. Et... J'ai ensuite abandonné ce métier pour continuer ma recherche plus librement, pour chercher.
Là, vous cherchiez quoi? Parlons-en de cette recherche. Oui. On ne quitte pas tant d'années de musique, un métier, une profession,
oui,
sans raison.
Oui. Mais il faut dire que j'étais un peu utopiste, un peu rêveur. J'ai pensé que j'aurais pu, en quelques années, en me consacrant l'exploitation d'une affaire commerciale, j'ai pensé que je pourrais gagner suffisamment d'argent pour, jusqu'à la fin de mes jours, ne faire que cette recherche dont nous allons parler maintenant. Et ce qui m'a fait glisser sur la peau de banane et rester plus que 2 ou 3 ans dans le commerce, où aussi j'ai fait des aventures, j'ai fait des choses tout à fait abracadabrantes, mais nous en parlerons peut-être. Parlons de la recherche. Il faut dire que j'ai commencé très tôt la recherche, c'est-à-dire que j'ai appris à lire à l'âge de 4 ans, par exemple, l'alphabet serbe est phonétique, c'est-à-dire qu'on écrit exactement comme on prononce, et il est très facile d'apprendre à lire, ce qui fait que j'étais tout petit quand j'ai appris à lire, et j'ai commencé Donc, à lire les livres d'enfants, tout petit. Et quand je suis arrivé à l'école, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'avais déjà lu tous les livres de la bibliothèque rose et les comtesses de Ségur et tout ça, c'était déjà des apprentissages pour moi. Et pendant que mes petits copains apprenaient le B.A.B.A., moi, je lisais déjà Dostoïevski et Tolstoï. Ouais. Et j'avais 6 ans.
Une longueur d'avance, là.
Oui.
Le lire, c'est une chose, le comprendre aussi.
Mais je comprenais à la façon que comprennent les enfants. Évidemment, je n'étais pas autre chose qu'un enfant, mais enfin, j'avais des horizons tellement plus ouverts, plus vastes, que à l'âge de 13 et 14 ans, j'avais déjà abordé les philosophes. J'avais déjà abordé, donc... ce qui était tout à fait inaccessible à des enfants. Donc ça, c'était une partie de cette recherche qui m'a fait aboutir à la politique. Et j'ai découvert la doctrine marxiste, j'ai découvert l'idéologie communiste, et évidemment, je suis tombé dans le panneau, je suis devenu fervent communiste. Mais en même temps, parallèlement, donc je jouais de la musique. Je faisais de la musique. Et j'étais passé à la clarinette, qui était un instrument trop difficile pour moi parce que j'avais des problèmes de santé. J'avais une cage thoracique déformée, je respirais mal, et donc la clarinette n'était pas un instrument pour moi. D'ailleurs, un des étudiants en musique, qui était en même temps étudiant en médecine, me l'avait dit, écoute, c'est pas pour toi, regarde ton thorax, etc. Il m'a expliqué tout ça en termes médicaux. Et il m'a dit, tu dois abandonner ça et faire autre chose. Évidemment, j'étais obstiné, têtu, j'ai voulu continuer. Et j'ai cherché des solutions. Je suis tombé sur un article concernant les performances respiratoires des yogis. À cette époque-là, le mot yoga était complètement inconnu. Tout ce qu'on savait encore au sujet des Indes, c'était... qu'il y avait des fakirs qui étaient capables de faire des choses extraordinaires. Mais le yoga, on ne savait pas ce que c'était. Seuls quelques spécialistes connaissaient le mot. Et cet article était écrit par quelqu'un qui revenait des Indes où il avait passé de nombreuses années. Et j'ai vu donc que c'était ça la solution pour moi. J'ai cherché. Et finalement, après maintes péripéties, j'ai trouvé l'auteur de l'article. Et... j'ai allé sonner à sa porte. Et il y a une dame qui m'a ouvert. J'ai demandé à voir monsieur un tel. Elle m'a dit, non, il est occupé, etc. Elle m'a renvoyé. J'étais un petit gamin, 14-15 ans. J'ai insisté. Je suis revenu, et chaque fois, je me faisais renvoyer. Et puis, comme on ne voulait pas me laisser rentrer, je voulais, moi, l'attendre dans la rue. Et il m'est arrivé aussi de l'attendre avec ma clarinette sous le bras et enveloppée dans un journal. Je n'avais pas d'étui. Et je l'attendais pendant des heures. Je le guettais dans la rue. Et finalement, un jour, c'est lui qui a ouvert la porte. Il avait une serviette autour du cou. À cette époque-là, on mettait une serviette pour manger. Autour du cou, il finissait son repas et c'était encore moi. Et finalement, fâché, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Et j'avais une boule dans la gorge. J'ai dit, je vais apprendre les trucs des fakirs. Il a éclaté de rire et il m'a mis sa main sur l'épaule. Cette main, je la sens encore toujours sur mon épaule. Et il m'a fait entrer chez lui. C'était la seule et unique fois que je l'ai vu rire. Il m'a fait entrer, il m'a fait m'asseoir, il m'a regardé. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était un maître, c'était un grand maître. Je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Mais il s'est penché vraiment avec une bienveillance incompréhensible, inexplicable, sur ce petit gamin que j'étais, gringalet, boutonneux, voûté, mal foutu. Il m'a pris littéralement en main et il m'a fait travailler. Je lui avais expliqué que je voulais jouer de la clarinette, que j'avais une révolution à réaliser dans le domaine de la musique. Je lui ai expliqué que, à cette époque-là, on jouait des sons plats avec la trompette, la flûte, le hautbois, la clarinette, jouait des sons plats, sans vibrato. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie.
Très bien.
Donc, je voulais introduire, à la manière des musiciens du jazz, introduire le vibrato dans les instruments avant, avec la clarinette, le hautbois, la flûte, pour qu'ils fassent le vibrato comme le fait le violon. Et je voulais, moi, être le pionnier du vibrato pour la clarinette, jouer le concert de Mozart avec un vibrato. J'étais persuadé que ça aurait donné tout autre chose que ce son plat avec des sons tenus interminables où manque justement cette couleur du vibrato.
Ce qui aurait surpris Mozart aussi d'entendre le vibrato.
Certainement.
Oui.
Et ce temps-là m'écoutait avec tant de patience, tant de bienveillance. D'abord, il ne connaissait rien à la musique, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais il voyait un petit gamin passionné. J'avais, paraît-il, le regard en feu quand je parlais de tout ça. Et il a voulu m'aider. Il m'a fait faire des exercices, il m'a initié à des techniques respiratoires. Et beaucoup plus que ça, il m'a initié à la recherche sur l'énergie vitale. Il m'a fait découvrir, vraiment, à l'âge de 15 ans, un monde qui reste le plus souvent totalement inconnu aux adultes du monde occidental. J'ai pénétré dans ce monde de l'énergie qui, pour moi, devenait le monde normal. À cet âge-là, on ne fait pas tellement la distinction. Je suis guidé par un homme qui, d'une main sûre, m'introduit dans un domaine que je pense être normal. Ce n'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que non, que tout ça, c'est tellement extraordinaire, totalement inconnu par tout le monde. Et surtout, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'était un maître, que c'était un grand maître.
Comment il s'y prend avec vous au début? Qu'est-ce qu'il vous fait faire?
Justement, il me faisait faire des choses que j'ai essayé de faire moi aussi après, mais sans succès, parce que moi, je ne suis pas un grand maître. C'était par sa présence, c'était par le regard qui pénétrait en moi, et par quelques mots seulement d'instruction qu'il me faisait faire des choses. Par exemple, le tantien. Le tantien, le mot que j'utilise est chinois, mais lui, il utilisait le mot centre, le centre. Le corps a un centre, c'est le centre de la vie. Ce centre est non seulement un centre énergétique, non seulement un centre géométrique, mais énergétique aussi, de là part la vie. Ce sont les mots qu'il utilisait. Et il me disait, tu dois sentir ton centre. Je ne sentais rien. Il me regardait dans les yeux. Il mettait sa main devant mon ventre et je sentais mon centre. Et ça devenait vraiment quelque chose de tout à fait réel pour moi. Je ne pouvais pas imaginer que c'était réel que pour moi, que personne d'autre ne sentait son centre. Pour moi, c'était normal. Et il me guidait de cette façon-là. Ce n'était pas tout à fait de la suggestion. Ce n'était pas tout à fait... Il ne m'hypnotisait pas vraiment, mais il faisait passer en moi ses connaissances, ses sensations, sa volonté, tout ça, ça passait en moi et ça produisait des résultats, des effets que je n'ai jamais pu obtenir moi sur mes élèves. C'est pour ça que je dis que c'était un grand maître. Il arrivait vraiment d'une main sûre à m'introduire, à me mener sur ce chemin où, en quelques années de travail avec lui, j'ai parcouru un chemin que d'autres mettent toute une vie à parcourir.
Et on ne parle pas uniquement de contrôle de respiration. On va beaucoup plus loin là.
Non, il ne s'agit plus seulement de la respiration. Il y a aussi un travail sur la conscience. Ce sont donc c'est la recherche de certains états de conscience où, disons, les perceptions du corps se modifient, où le corps devient différent pour finalement disparaître complètement et disparaître dans la perception. Je ne perçois plus du tout mon corps, je reste pleinement conscient, je suis pleinement centré, mais sans aucune référence corporelle. Et d'autres états de conscience de ce type, de ce genre, les communications, par exemple, avec la nature. Ça aussi, j'ai été très surpris plus tard de comprendre que c'était vraiment un privilège qui m'avait accordé de pouvoir communiquer avec un arbre, par exemple. Dès l'âge de 15-16 ans, il m'avait introduit dans ce monde de la vie. Et j'étais capable, en face d'un arbre, de sentir la vie de l'arbre. Et je pense aussi de me faire sentir par l'arbre, de communiquer d'une certaine façon. Et aussi de bénéficier de l'influence bénéfique, de l'énergie de l'arbre, de m'imprégner de l'énergie de la terre, etc., face au soleil, pas seulement de m'exposer pour brunir, mais de capter cette énergie formidable qui est que le soleil ne dise pas, la lune aussi, etc. Tout ça, c'était des choses qui me révélaient. Je faisais ça normalement, comme on apprend n'importe quelle autre chose.
Et vous aviez conscience de l'importance de ce que vous étiez en train d'apprendre?
Non. Je dois dire que ça m'ennuyait parfois prodigieusement, parce que moi, je voulais faire de la musique. Et je voulais faire le vibrato.
On attend toujours le vibrato.
Voilà. Oui. Et seulement, plusieurs années plus tard, c'est devenu vraiment ma recherche passionnée, et ça l'a resté toute ma vie. Mais à cette époque-là, j'étais un gamin, et surtout, toutes ces explications concernant la vie, concernant les relations avec les hommes, avec l'humanité, tout ça, ça me barbait prodigieusement. Mais il le savait très bien et il insistait. Et il répétait très souvent les mêmes choses, ce qui fait que je n'ai pas pu les oublier sans rester.
Est-ce qu'il vous donnait également des exercices à faire?
Oui, de très nombreux exercices.
Et vous étiez fidèle à ces exercices?
Absolument. Ça, j'avais cette discipline que j'avais acquise depuis l'enfance. On n'apprend pas un instrument de musique en sifflotant, il faut travailler. Et donc j'ai appris à travailler et à travailler avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'attention, avec une concentration dont les enfants normalement ne sont pas capables. J'ai appris tout ça dans mon enfance. Ce qui fait que lorsque j'ai commencé à apprendre cet autre instrument qui est le corps humain, qui est l'être humain, j'ai appliqué tous les principes de l'apprentissage d'un instrument de musique et j'étais un élève très assidu et très... pas respectueux, pas discipliné, ça oui, mais j'étais très, très près de l'enseignement, très proche de l'enseignement qu'il me donnait, et j'essayais de le suivre vraiment scrupuleusement.
Comment réagissaient vos amis, vos compagnes, vos compagnons autour de vous, autour de cette discipline-là?
J'avais déjà l'habitude de voir vriller l'index sur la tempe quand on me voyait. Comment voulez-vous Les enfants jouaient aux jeux d'enfants, alors que moi, je lisais des philosophes. J'étais le fou, évidemment. Mais j'ai appris à être le fou depuis toujours. Et pour un enfant de 10, 12 ans, 13 ans, la philosophie, c'est des foutaises. Or, moi, je plongeais là-dedans et j'essayais parfois d'en parler à des copains qui ne comprenaient strictement rien à ce que je disais et qui me traitaient de fou. Donc, être fou, pour moi, ce n'était pas nouveau. Et j'ai continué à l'être en faisant cette autre recherche où, justement, la partie verbale, le domaine verbal, est pratiquement inexistant.
En pleine jeunesse, où on vous trouve donc auprès de ce maître, toujours travaillant votre musique, est-ce que vous étiez fou autrement que dans l'apprentissage de cette discipline?
Eh oui.
J'étais... Il semblait bien aussi.
J'étais passionné aussi par le sort de l'humanité, et tout particulièrement par le sort du prolétariat. Figurez-vous que j'avais appris qu'il fallait nationaliser les moyens de production et que les vilains capitalistes le refusaient et que c'était ça le problème et que c'était la solution de tous les problèmes de l'humanité. Et j'ai foncé là-dedans vraiment pleinement, j'y ai cru pleinement. Et avec toute la sincérité de la jeunesse et l'enthousiasme de la jeunesse, j'ai foncé là-dedans. Et j'ai fait aussi beaucoup de choses.
Comme? Vous arrêtez de parler tout à coup?
Mais ce n'est pas très facile de parler de tout ça, vous savez. Surtout, justement, maintenant que ça recommence dans ce pays. Il y a eu la guerre. Et j'avais 16 ans quand j'ai commencé, quand je me suis engagé dans cette guerre. Évidemment, je n'étais pas un soldat, j'étais plus que ça, j'étais bien plus que ça, j'étais un combattant volontaire. J'ai voulu ce combat et je me suis mis à la disposition, entièrement à la disposition, donc du parti communiste à cette époque-là, qui a fait de moi un terroriste, qui a fait de moi un combattant révolutionnaire.
Nous sommes toujours en Belgique.
Non, nous sommes en Yougoslavie.
Non. Ah, vous parlez de... Ok.
Oui, je parle
On revient en arrière.
C'était l'âge de 16 ans.
Je voyais mal l'embrigadement du Parti communiste belge.
Non. Oh, non. Non, ça n'a rien à voir. Nous sommes.
Mais vous aviez donc gardé ces idées-là quand vous avez quitté la Yougoslavie, cet idéal.
Ah non, oh non. J'avais compris et on me l'avait fait comprendre férocement. Non.
C'est pourquoi vous avez fui finalement.
Oui.
En fuyant le pays, en fuyant ses excès, vous fuyez aussi votre idéologie.
Ça a été difficile, vous savez, ça a été difficile de comprendre qu'on puisse utiliser un langage, utiliser des mots, utiliser toute une philosophie, construire toute une philosophie sur rien, que c'est tout simplement des mots. Et que ceux qui se disent défenseurs de cette philosophie, défenseurs de cette idéologie, dans les actes, dans leur comportement, font des choses tellement contraires, tellement, non pas seulement contraires à cette idéologie-là, mais monstrueuses en soi, etc., tout en défendant les idéaux de l'humanité. C'est affronter ça et le vivre dans sa peau, eh bien, ça n'a pas été une expérience facile.
Quand on est jeune, renoncer à une idéologie, c'est la chose la plus difficile au monde.
C'est l'écroulement. C'est vraiment perdre sa vie, c'est perdre tout, c'est perdre tout. Et j'ai dû faire tout un travail. Comme j'ai appris la musique, comme j'ai appris donc toutes ces techniques de travail intérieur, j'ai appris aussi à me libérer de la mémoire, à me libérer de tout ce passé. Mon maître à cette époque-là, enfin avant ces événements, m'avait parlé d'un choix qu'on devait faire. Il m'avait expliqué, j'avais, je crois, un peu compris aussi que le monde tel qu'il est se trouve en fait dans notre conscience et que nous pouvons le choisir, que nous pouvons le modifier, que c'est notre attitude personnelle qui fait que ce monde est beau ou pas beau, qu'il soit heureux ou non. Et avec une insistance vraiment inlassable, il m'avait enseigné de choisir le bonheur. Ces mots, c'était comme ceci. Un homme heureux ne fait pas de mal, un homme heureux fait du bien. Alors sois heureux, d'abord toi, sois heureux et tu feras du bien. Et ces mots-là me sont revenus à une époque où je n'étais pas heureux du tout, une époque où j'avais touché vraiment le fond de l'abîme. Et j'ai choisi le bonheur, j'ai choisi d'être heureux.
Parce que c'est un choix.
Et c'est un choix.
D'abord et avant.
Et c'est un choix. Et c'est un choix, et pour réaliser cette volonté de bonheur, il a fallu se débarrasser, il a fallu se libérer de tout le passé qui collait encore, qui était là, qui... C'est pas facile de...
Comment on fait pour dire, je suis certain qu'il y a des milliers de gens qui nous écoutent, qui disent, oui, on voudrait tous se décoller d'un certain passé pour choisir le bonheur. Soyez plus précis, comment on fait pour se décoller de son passé?
Le premier ennemi du bonheur, c'est la mémoire. Si vous vivez dans le passé, si vous rabâchez dans votre mémoire les événements du passé, vous ne pouvez pas être heureux. Il faut vivre dans le présent, mais dans le présent immédiat, dans l'instant même, et refuser tout souvenir, quel qu'il soit, les beaux et les pas beaux, vivre dans le présent, s'ouvrir au présent même. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est de refuser l'avenir aussi. Si vous anticipez, si vous rêvez sur des événements futurs,
ou si vous craignez l'avenir,
ou si vous le craignez encore pire, évidemment, vous ne pouvez pas être heureux. La vie, ça se passe au présent. La vie, c'est à l'instant même. Et si vous voulez jouir de la vie, être heureux vraiment, il faut être présent. Il faut être présent dans cet instant. On ne peut pas être heureux à l'avenir, dans l'avenir. On ne peut pas être heureux dans le passé. On est heureux seulement dans le présent. Ça, c'est la clé du bonheur. Vivre dans le présent. Et même la plus grande souffrance, si vous êtes dans le présent, ne dure qu'un instant, un instant qui passe. Vous êtes dans le présent et le nouvel instant, déjà, est tout autre chose.
On vit d'instant en instant.
D'instant en instant, et vous êtes tout le temps dans le présent. Et à ce moment-là, vraiment, on peut passer à travers des choses les plus difficiles de la vie sans être touché, sans souffrir, et garder toujours présent cette conscience de vie, cet état de vie. Ça, c'est quelque chose que mon maître m'a appris. Et c'est, je crois, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est de pénétrer par la conscience dans le fait même de vivre. La vie même, je parle de ce processus biologique, est quelque chose qui échappe aux civilisés. Nous sommes tous dans la tête, dans notre monde civilisé. Nous sommes tout le temps en train ou de parler ou de se raconter des choses, etc. Mais la vie même, le processus même de la vie, se traduit pour l'homme civilisé à l'écoute des barborygmes de son intestin ou éventuellement au battement de son cœur. Mais il n'est pas présent dans sa vie, dans ce processus physiologique, énergétique, historique qu'est sa propre vie. La nature nous a donné des sens qui font que nous éprouvons du plaisir pour tout ce qui est favorable à la vie. Et nous éprouvons de la souffrance ou de la douleur pour tout ce qui est défavorable à la vie. Mais elle nous a doté d'une joie, d'une faculté de joie tellement énorme lorsqu'il s'agit de simplement sentir sa vie, de simplement sentir le phénomène de la vie. Et cette joie-là échappe au civilisé, justement parce qu'ils ne vivent pas directement, ils vivent dans la tête, ils vivent dans la pensée, ils vivent dans le verbe, dans le langage.
Dans le mental, comme dans on le dit. Mental. Et le exactement. Mental, c'est la même étymologie que mensonge.
Bravo! Exactement. Ah, ça, je vais utiliser. C'est très bon. Et oui. Vivre directement, être consciemment présent dans sa propre vie, qui comprend tout, y compris les barborygmes. Et ça, c'est la clé.
Mais il faut avoir une faculté d'oubli incroyable, parce qu'il faut oublier ce qu'on pense, il faut oublier ce qu'on a vécu déjà, ce qu'on a peur de vivre, à la rigueur, oublier quelques barborygmes qui sont plus douloureux que d'autres à certains jours. C'est beaucoup de choses à oublier en même temps.
Oui, et c'est bien ce que je vous ai dit. Ça a demandé tout un travail, ça a demandé vraiment un apprentissage, apprendre à vivre dans le présent. Je pense que j'y suis arrivé pleinement et plus rien ne peut me rendre malheureux.
Vous allez me répéter ça et me le jurer.
Je le répète, je le jure.
Rien ne peut vous rendre malheureux.
Non. Il m'est arrivé, depuis cette époque-là, des événements extrêmement malheureux, je peux le dire. Ça ne m'a pas fait souffrir, non. Je suis passé à travers ça. Conscient qu'il m'arrivait un grand malheur, mais en regardant ça d'une façon tellement détachée, ça ne m'a pas fait souffrir.
Plein de gens diront, vous étiez insensible alors.
Et non, j'étais sensible au contraire, mais à autre chose. Sensible à la vie, qui elle continue. Sensible à cette faculté de bonheur qu'on a tous quand même, quoi qu'il arrive.
Arnaud Desjardins, qui est un maître pour moi, en tout cas, disait qu'on doit se sentir comme des écrans de cinéma, finalement, sur lesquels on peut projeter les plus grands malheurs, les plus grands bonheurs, mais l'écran reste immuable, invariable.
C'est ça. Je dirais que, pour ce qui est de la conscience, je suis tout à fait d'accord. La conscience doit être vraiment un miroir ou un écran où tout défile. Et je contemple tout, je regarde tout, je vois tout, rien ne me touche. Mais il y a autre chose encore. Il y a l'être vivant qui, lui, est fondamentalement heureux, qui, quoi qu'il arrive sur cet écran, lui reste fondamentalement heureux parce qu'il vit, heureux par le seul fait de vivre. Ce qui fait que les événements de l'écran ne le touchent pas, mais le fait de vivre le touche pleinement. Il est là, présent dans la vie, il est heureux, il vit.
Mais le mal physique, la maladie, la douleur physique, oui. Ça ne s'oublie pas comme ça.
Non, ça ne s'oublie pas. Et Le mal aux dents, par exemple, est quelque chose qu'on soit chez le dentiste, c'est pas autrement.
On a beau être sage, monsieur, ça fait mal.
Ça fait mal et c'est bien comme ça. Seulement, il y a une autre attitude en face de la douleur maintenant. Ça fait mal, ça ne me fait pas mal.
Voilà la différence. Ça fait mal, ça ne me fait pas mal.
C'est ça. Je ne suis pas engagé dans cette douleur. C'est quelque chose qui fait mal, mais moi, je ne souffre pas. Ça ne me touche pas en profondeur. Je sens une douleur, la douleur est là, mais c'est la douleur, ce n'est pas moi.
Il y a donc un dédoublement quelque part.
Je dirais plus une concentration, un retour au centre. Le dédoublement, c'est à l'extérieur. Je suis au centre, je suis dedans, je ne suis pas dédoublé. Au contraire, je suis uni, je suis dedans, je suis intégral, je dirais. Et c'est comme ça que...
Autrement dit, vous êtes fait comme un oignon et vous sentez les couches très, très bien concentriques jusqu'au cœur de l'oignon.
Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé
j'essaie de trouver une image.
À cette image-là. Je n'ai pas pensé à cette image-là.
Parce que ce n'est pas facile de comprendre qu'on puisse avoir mal, mais ne pas avoir mal personnellement, si on veut.
Oui, mais disons que c'est seulement un exemple.
Oui.
Ce n'est pas l'essentiel de la chose.
Non, mais ça intéresse beaucoup de gens.
Il m'est arrivé, par exemple, de me faire soigner les dents. Et c'était un dentiste âgé qui me soignait. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que je m'étais endormi dans la chaise du dentiste. il n'arrivait pas à le croire. Il a l'expérience de ce qu'est quelqu'un qui vient se faire soigner les dents. Il se crispe au dossier. Il est tendu, etc. Moi, je me suis endormi. Il me tripotait les dents, je sentais le ronron là de la fraise et je me suis endormi. Ça, c'est la distance qu'on prend par rapport à la souffrance. Évidemment, il y avait l'anesthésiste, je n'avais pas mal, ou juste très peu. Mais néanmoins, j'ai pu m'endormir parce que je n'anticipais pas, je ne pensais pas à la douleur que j'allais éprouver. Je n'avais pas la crainte du dentiste.
Ou alors cette douleur était pleinement acceptée, parce que ce qui fait souvent mal, c'est le refus.
Le refus, le refus.
Et toujours l'exemple de cette piqûre, de cette injection qu'on se donne, quand on se contracte pour refuser la douleur, elle fait deux fois plus mal, et on accepte que ça va faire mal, et ça va très bien comme ça.
Exactement, exactement.
Vous croyez que c'est applicable à tous les malheurs et les... vicissitudes de la vie.
Mais il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur. Tout ce qui arrive est bien.
C'est très bien déguisé, le bien, parfois. Hein? On va y songer. Et à la prochaine émission, on va en reparler de ça. Je suis en compagnie merveilleuse de Vladi Stefanovitch et nous sommes dans un endroit tout aussi merveilleux puisqu'on est au pic de l'aurore, à Percé, en cette mi-août 93, devant cette île Bonaventure, ce rocher percé, ce village. On y sera encore demain. À demain. On s'est parlé hier un peu de votre passé serbe en Yougoslavie. Vous avez quitté la Yougoslavie dramatiquement. Vous êtes échappé de la Yougoslavie parce que vous y avez été maltraité pour vos engagements politiques. Vous avez été un communiste convaincu, un communiste déçu aussi, qui a quitté. Votre mère, c'est bien votre mère qui était belge.
C'est ça.
Hein, oui. Et votre père était serbe. Et vous avez donc eu une éducation tout à fait européenne, tout à fait francophone. Et vous êtes devenu un jour, à partir de cette recherche qu'on a abordée ensemble, de la musique, puisque vous étiez musicien, à la recherche du vibrato pour des instruments avant, vous vouliez, à travers la sagesse, à travers la respiration, finalement, à l'oriental, chercher un vibrato pour ces instruments-là. Avez-vous fini par le trouver?
Oui, oui. Et je dois dire que c'est devenu même une mode. Aujourd'hui, le hautbois et jouer avec un vibrato que tout le monde apprend au conservatoire, c'est devenu quelque chose de tout à fait banal.
Et c'est vous qui l'avez mis au point?
Oh non, non. C'est une recherche que, à ma grande surprise, qui était déjà engagée par d'autres musiciens qui ont certainement eu la même influence que moi, les mêmes idées que moi, c'est normal. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'un flûtiste joue avec un vibrato, un trompettiste joue avec le vibrato, et surtout le hautbois est devenu l'instrument où on enseigne le vibrato au conservatoire. Donc, tout ça, c'est du passé, tout ça, ça n'a plus beaucoup d'importance.
Parce que tout ça, anecdotiquement, vous amenez sur la voie et vous êtes devenu un maître du tai chi. On est ici ensemble de la percée parce que vous donnez des sessions en cet été 93 avancées en tai chi. Si on en parlait un peu de ce que c'est que ce tai chi-là, c'est une discipline, disions-nous.
C'est ça, c'est ça.
Plus qu'un sport?
Oh non, ce n'est pas du tout un sport. Ce n'est pas du tout un sport, c'est une recherche qui passe par une activité corporelle. Cette activité corporelle consiste en mouvements qui se font très lentement et qui sont d'origine martiale. Ce sont en fait des coups qu'on donne, des mouvements de défense qu'on exécute, mais qui se font d'une façon très ralentie et qui sont en fait stylisés. L'origine martiale est toujours présente. Je dirais que la grammaire, la syntaxe, la logique de l'acte martial est resté, mais non pas non plus l'intention ni le sens. Il faut dire que seulement dans un combat, je parle du combat à mort, du combat pour sauver sa vie, seulement dans un combat, l'être humain engage vraiment toutes ses facultés, toutes ses possibilités. Pour sauver la vie, on fait tout. Y compris de mobiliser des facultés tout à fait insoupçonnées. On a vu plus d'une fois, des gens relativement faibles réalisaient des prouesses véritables lors d'un combat. Et les maîtres anciens, chinois, indiens aussi, ont compris que dans ces instants-là, on faisait appel, on avait recours à une énergie tout à fait différente de celle qu'on utilise pour un travail normal. Ils ont étudié le combat et ils ont compris que face à la mort, le combattant puiser son énergie à des sources inconnues. Et ils ont fait cette recherche et ils ont trouvé. Ils ont trouvé après des siècles de recherche. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ils ont trouvé comment mobiliser l'énergie vitale et l'utiliser dans le combat. À partir de là, cette recherche est allée plus loin et finalement, on a appris à utiliser cette énergie hors du combat. On l'a utilisée pour la vie aussi, pour la santé, pour des recherches, la recherche artistique par exemple, mais aussi pour des recherches qui n'ont plus rien à voir avec une quelconque utilité
militaire
ou autre.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, Vladimir, à titre d'image, qu'une technique qui était celle de soldat finalement est devenue au service du guerrier en soi, ce guerrier qui se bat contre un démon? Quand on fait un exercice de tai chi, c'est donc un exercice martial au ralenti, c'est un peu comme si on se battait, on se donnait des coups, et si on se parait des coups de nos démons intérieurs, non?
Oui, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Il faut dépasser cet aspect-là aussi. À un stade plus élevé, ça aussi s'est dépassé. On ne se bat plus du tout. Mais, disons, pour l'apprentissage, pour la première démarche, cet aspect est important. Cet aspect de combat est important. Par la suite, il faut qu'on le dépasse. Il faut qu'au contraire, on s'ouvre complètement et on disparaisse. L'aboutissement, je dirais, de cette recherche, c'est de disparaître en tant qu'individu, de se confondre dans un élan énergétique universel. Et ce ne sont pas de vains mots, ce sont des expériences que les pratiquants avancés ont régulièrement lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas chaque fois, lorsqu'ils arrivent à atteindre vraiment cet état de détachement complet, ils se confondent avec l'énergie de l'espace, avec l'énergie de la vie.
Et je vous interromps un tout petit peu, Vladi, pour rappeler à ceux qui nous écoutent et se rappeler aussi à soi dans notre discussion, que toutes les grandes sagesses du monde, orientales comme certaines occidentales aussi, rappellent cette même vérité essentielle de se fondre. Bon, il y a toutes sortes de mots pour le dire. On parle, on est ici devant l'île Bonaventure, on domine tout le golfe Saint-Laurent. Au lieu d'essayer absolument d'être une goutte personnalisée dans l'océan, on veut être une goutte dans l'océan et devenir soi-même ainsi l'océan en entier. Et ces images-là, toutes les sagesses du monde y reviennent. Cette façon d'annihiler l'ego, d'enlever l'ego et de devenir le tout, au lieu d'être toujours développé, d'être une partie, d'avoir une différence avec les autres, de se fondre dans l'univers.
C'est ça. Donc, je pense que l'ego a une raison d'être. La vie, le grand bios, s'est dispersé dans des myriades d'individus que sont les êtres vivants. C'est la bonne façon de défendre la vie, de propager la vie. Donc, d'être une unité de vie, d'être un ego, a une raison d'être biologique normale. Seulement, lorsque la vie n'est plus menacée, lorsque les conditions de vie sont réunies et qu'elles sont heureuses, on peut dépasser cet état d'ego et se fondre dans cet immense élan qu'est la vie même. La vie est un seul phénomène. Et on peut en prendre conscience, on peut devenir vraiment la vie même, devenir non pas seulement une gouttelette, mais comme vous le disiez, l'océan même. Et c'est vers ça que tend notre enseignement, et c'est ça l'aboutissement. Par moments, parfois, les pratiquants avancés arrivent à cet état, et ce sont des états inoubliables. Quand on a atteint ça, ne plus qu'une fois, on ne l'oublie plus jamais.
On veut toujours y revenir.
Et on veut toujours y revenir, et 9 fois sur 10, on loupe la tentative, mais c'est pour recommencer encore et pour, de temps en temps, y arriver encore et encore. Et ce sont vraiment des moments privilégiés de l'existence.
Vladi Stevanovitch, c'est votre spécialité, vous l'enseignez, vous la transmettez. Comment, à travers le Tai Chi, on peut arriver à devenir, comme goutte, océan entier?
Mais dans tous les arts, il y a une technique. Il n'y a pas de musique sans instrument de musique, mais tout ça ne vaut rien sans une technique spécifique à l'instrument, spécifique à l'exécution d'un morceau, etc. Le Tai Chi, c'est la même chose. Il y a une technique à apprendre. Il y a des choses bêtement techniques à étudier, à exercer et à apprendre. D'abord, il faut apprendre à détendre les muscles, à se relaxer, à pouvoir exécuter des mouvements avec un minimum d'engagement musculaire. C'est une technique à apprendre. Détendre tous les muscles, lâcher tout avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, il s'agit de se mouvoir dans l'espace et de faire des mouvements en utilisant un minimum d'efforts musculaires. Ça s'apprend. Il y a ensuite les techniques respiratoires. Ça aussi, ce n'est pas seulement respirer. Il faut respirer d'une certaine façon, en engageant, en mobilisant tout l'appareil respiratoire. On peut respirer par le ventre, on peut respirer par les basses-côtes, on peut respirer par le sternum, par les clavicules, par le dos, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on met au point minutieusement, comme on met au point l'exécution d'un morceau de musique pour un musicien. Il y a ensuite le travail sur l'énergie. On peut, dès la première leçon, apprendre à sentir, à percevoir l'énergie, le qi, l'énergie vitale.
Ce que ça veut dire, qi, c'est ça?
Qi, le qi en chinois, c'est, enfin, on prononce ji ou quelque chose comme ça, mais moi, je ne sais pas chez moi. Acceptez donc.
C'est l'accent du centre-sud de Montréal.
Voilà, c'est bon. Donc, le qi est quelque chose qu'on apprend à percevoir dès la première leçon, ou dès les premières leçons, on apprend à le percevoir. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore être capable de le guider, d'amplifier les mouvements du qi et de guider ce qi et de s'en servir pour les mouvements que nous faisons. Ça demande un apprentissage qui est souvent long. Il y a des techniques musculaires, spécifiques. Il faut apprendre à utiliser les muscles du ventre d'une façon tout à fait inhabituelle. Il faut dire, entre parenthèses, que dans les mouvements de la vie quotidienne, nous utilisons les muscles d'une certaine façon, et seulement de cette façon-là, et jamais autrement. Or, les muscles sont capables d'exécuter des performances très différentes. On peut réaliser avec des muscles du corps des choses qui ne servent jamais dans la vie courante, mais qu'on peut produire, tout le monde peut réaliser des choses tout à fait extraordinaires. Et notamment d'utiliser plusieurs muscles de façon convergente pour saisir littéralement, comme avec une main, un endroit précis du corps et où on produit de cette façon-là un effet énergétique. Et c'est ça le but. Donc, par ce travail-là, on apprend à manipuler l'énergie vitale. Il ne faut pas oublier aussi que l'énergie en soi n'existe pas. Elle ne peut exister que s'il y a un support matériel. L'énergie, par exemple, du soleil qui traverse le cosmos n'est rien tant qu'elle n'est pas arrêtée par un obstacle qui, à ce moment-là, en fait de la lumière ou de la chaleur, etc. Dans l'espace, c'est le zéro absolu. La chaleur, c'est au contact d'un objet matériel. Là, l'énergie se manifeste. L'énergie vitale, de la même façon. Il faut un corps, il faut un support corporel, matériel, pour que cette énergie puisse se manifester. Et donc, c'est à partir du corps, à partir d'un travail corporel, que nous mobilisons et nous manipulons cette énergie. Tout cela, en fait, demande des années d'apprentissage avant de devenir vraiment quelque chose qu'on possède, qu'on a dominé, dont on se sert utilement.
Apprentissage avec un maître, non pas dans des livres.
Certainement pas dans des livres et même pas dans les miens.
On en reparlera des vôtres d'ailleurs, je m'appuie dessus actuellement, là, mais on en parlera tout à l'heure de vos livres. Il s'apprend donc un maître et donc une pratique quotidienne également.
Je dirais que d'apprendre avec un maître n'est pas nécessaire. Il faut que l'enseignement provienne d'un maître. Mais quelqu'un qui n'a pas encore atteint la maîtrise peut déjà transmettre l'enseignement,
les techniques
d'abord, l'enseignement aussi en quelque sorte, parce que cet enseignement ne passe pas par le verbe, ne passe pas par l'expression verbale, n'est pas expliqué, il est montré. Et quelqu'un qui a une certaine maîtrise du mouvement peut le montrer et le faire passer en quelque sorte dans le corps de l'autre. On ne peut pas tout expliquer. Je montre un mouvement. Je ne peux pas vous dire tout ce que je fais, ce n'est pas possible, mais vous le voyez.
Et par imitation, on vous imite.
Et vous allez vous imprégner de mon mouvement, vous allez m'imiter et le reproduire. Mais attention, imiter le mouvement ne suffit pas. Un acteur, par exemple, peut parfaitement imiter les gestes du personnage qu'il interprète, sans être ce personnage. Il peut se mettre dans la peau du personnage, etc., et jamais il ne sera ce personnage. Or, ici, on demande plus que d'imiter. On veut que vous soyez ça, que ça s'imprègne dans votre personnalité, que ça devienne votre nature. Et à ce moment-là, vous avez franchi le pas. Et ça, c'est par cette espèce de contact à distance qui est possible avec le chi. Et là, nous arrivons dans un domaine qui est complètement inconnu dans notre civilisation. C'est cette communication non-verbale, non tactile, non visuel non plus, mais qui existe et qui est cette communication par le chi, communication par l'énergie. Il faut dire que chaque être vivant a un centre énergétique et les humains l'ont dans le ventre. C'est le tantien, c'est le centre du corps, le centre énergétique. À partir de là émane d'une certaine façon l'énergie et on peut la diriger, et de toute façon, elle émane, elle entoure le corps et communique avec autrui. Entre êtres humains, on peut établir une relation énergétique indéfinissable, inexplicable, mais perceptible par quiconque se donne la peine de s'ouvrir à cette perception. Il faut accepter d'abord que c'est possible. Si vous dites, non, avec moi ça ne marche pas, évidemment que ça ne marchera pas. Mais si vous dites le contraire, je voudrais bien essayer, je voudrais bien voir, sentir moi aussi cette chose. Tout le monde peut le sentir. Un peu d'entraînement, un peu de patience, quelques trucs à apprendre évidemment, et ça y est, tout le monde peut communiquer de cette façon-là. Mais alors, l'apprentissage de Tai Chi Chuan, qui se fait de cette façon-là, est le vrai. C'est pour ça que l'apprentissage par un livre, ou même par une vidéocassette, n'est pas valable. Il faut que ça passe par le chi, par cette communication énergétique entre l'enseignant et l'élève. Et à ce moment-là, l'élève s'imprègne non seulement de l'exemple, mais de l'énergie de l'enseignant et reproduit alors non seulement le geste, mais aussi ce qui fait le geste, c'est-à-dire ce mouvement énergétique. Même sans connaître les techniques, sans avoir dominé les techniques de manipulation, il bénéficie du travail de l'enseignant, du professeur et parfois du maître, s'il a eu la chance d'en rencontrer un. Et c'est là la différence. Un enseignant débutant montre les mouvements, fait passer quelque chose. Quand c'est le maître qui le fait passer, c'est très différent. Et donc, parce que son influx énergétique est beaucoup plus important, son impact énergétique est beaucoup plus important, alors que c'est le même geste, alors que c'est le même mouvement. Donc, un maître porte, un groupe, un maître porte 100, 200 personnes à la fois qui sont littéralement portées par son mouvement, alors qu'un enseignant débutant montre, suggère le mouvement, imprègne d'une certaine façon aussi l'élève, mais ça, c'est loin d'être la chose, le résultat, l'effet que peut produire quelqu'un qui a derrière soi toute une vie de travail.
Mais c'est pas spécialisé ou spécifique au tai chi, parce que si on regarde l'enseignement, quel qu'il soit, on peut lire un livre de philosophie, mais si le philosophe est un très bon professeur, un très bon pédagogue, qu'on est en présence de lui dans une classe de cours, on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus en profondeur dans cette communication directe avec l'énergie de la parole, des yeux, de l'énergie tout court de l'individu. C'est la même chose.
Absolument, absolument. C'est tout à fait la même chose, mais seulement, dans notre civilisation, c'est quelque chose qui se passe accidentellement. On est conscient que c'est comme ça, mais on ne s'est jamais penché sur le problème. On ne s'est jamais demandé comment ça se fait, qu'est-ce qui fait ça. Les Chinois ont fait le contraire. Ils sont partis de ça. Ils ont dit, mais là, il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce que c'est cette chose qui passe? C'est le qi. Et c'est là-dessus qu'ils ont orienté leur recherche, et ils ont non seulement compris, mais développé des techniques qui permettent donc de communiquer avec le qi. Et ce sont ces techniques-là qui nous ont léguées par-delà les millénaires. C'est arrivé jusqu'à nous, et nous pouvons nous aussi, nous occidentaux, barbares, aussi apprendre ces choses-là.
Vladi, est-ce que le tai chi, bien sûr, est une voie pour atteindre la sagesse. Une voie parmi d'autres, il y en a d'autres. À qui s'adresse particulièrement le tai chi? Parce que bon, il y a des gens qui sont plus sensibles à cette façon d'aborder la sagesse, d'autres avec d'autres façons.
Oui, oui. Je dirais que dans la pratique, d'après les résultats, d'après les effets de l'enseignement, pas seulement le mien, mais de nombreux autres professeurs et maîtres de tai chi chuan, ce sont surtout les femmes qui s'intéressent au travail que nous faisons. C'est la grande majorité. La grande majorité, ce sont des femmes.
Ah bon?
Pourquoi? C'est d'abord parce que le tai chi chuan ne demande pas l'engagement de la force, ne demande pas la violence comme les arts martiaux, par exemple, ou les sports violents, etc. C'est quelque chose qui se fait en douceur. Et nous attirons beaucoup de femmes. Et ces femmes, très souvent, atteignent un haut niveau de pratique et deviennent professeurs de tai chi chuan à leur tour, et de ce fait-là, attirent d'autres femmes, etc. Donc, c'est devenu, en Occident, pratiquement une discipline à majorité féminine. C'est en train de changer depuis peu. Depuis peu, dans les cours, on voit apparaître des hommes de plus en plus jeunes et de plus en plus de pratiquants d'arts martiaux violents, déçus, qui viennent chercher la chose qu'ils cherchaient dans les arts martiaux violents, ils viennent la chercher et la trouver dans le tai chi chuan. Nous parlions de la sagesse, nous parlions de cette recherche intérieure. Ce n'est pas le premier motif qui mobilise les pratiquants. Le premier motif qui les mobilise, c'est une recherche de bien-être, une recherche de santé, une recherche façon de soigner les petits bobos, etc.
Motivation
parfois même, banalement,
physique,
banalement, la cellulite. On a entendu dire que la cellulite fond quand on fait du tai chi chuan, et voilà, l'afflux.
Ça y est, les
mais oui, mais peu importe quelle est la motivation du début, peu importe la motivation du début, ça c'est vraiment la chose la plus secondaire. C'est après que ça commence. Quand on a touché à la chose, quand on a vraiment pris conscience de l'existence du chi, de cette ouverture dont tout le monde est capable, mais là tout change. Évidemment, on a toujours le souci de sa cellulite, mais on s'ouvre à autre chose et très vite, on pénètre dans ce monde, on essaie d'y trouver sa place, on essaie de comprendre, parfois en lisant des livres, mais le plus souvent en faisant une pratique concrète. Et il y a maintenant des jeunes, de plus en plus jeunes, qui arrivent et qui vraiment sont enthousiasmés par cette recherche. À ma grande surprise, parce que jusqu'à peu de temps, les jeunes étaient très, très orientés vraiment vers la violence, vers les sports brutaux, etc. Et soudain, voilà un revirement. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui cherchent autre chose et qui enfin trouvent, je crois, la bonne voie.
Est-ce qu'il n'y a pas le côté rituel du tai chi qui attire aussi les jeunes? On a délaissé depuis au moins deux générations maintenant la religion ou les religions. On recherche encore le rituel?
On cherche le rituel. Je dirais que dans notre école, moi, j'ai un peu délaissé le côté rituel. J'insiste sur le gestuel, j'insiste sur la respiration et la recherche de l'énergie. Mais le rituel revient tout seul. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est que le rituel revienne sans qu'on l'ait cherché. De temps en temps, il nous arrive, lorsque nous avons fait une pratique où nous sommes allés ensemble au fond des choses, il nous arrive d'arrêter, de terminer donc la séance dans une attitude religieuse. Il n'y a pas d'autre mot à dire. De prendre des attitudes où le rituel revient tout seul. Voyez? Et enfin de nous saluer d'une façon tout à fait rituelle avant de nous séparer sans nous l'avoir imposé, sans que ce soit quelque chose d'imposé. Je pense que c'est la bonne façon de laisser venir le rituel. L'imposer, le codifier, je pense que ce n'est pas la bonne façon.
Mais de retrouver le sens initial du mot religion.
C'est ça, le sens initial.
Ça veut dire le mot religion, c'est relier, hein, se relier à d'autres, et se relier à l'ensemble de l'univers. Et ça, la religion que tant de nous avons connue ne faisait pas ça, elle nous séparait de l'ensemble de l'univers. Il faut se relier à l'univers.
C'est ça.
C'est ce que vous tentez de faire.
C'est exactement ce que nous essayons de faire. Et c'est surprenant de voir des gens d'âge très différent, de cultures différentes, d'un niveau social très différent, se réunir autour de cette pratique et vraiment de devenir vraiment quelque chose, un groupe tellement uni, un groupe qui vraiment respire, vit ensemble, par-dessus toutes les barrières, et d'âge, et de fortune, et de conditions sociales, et tout ça, et de nationalité aussi, parce que nous réunissons lors des grands stages, comme ici, des gens qui viennent de quatre continents. Il nous manque un, l'Afrique. On n'a encore pas d'Africains. Mais nous avons des gens qui viennent de quatre continents, qui parlent toutes les langues, etc., enfin, avec le français dominant, et qui, donc, se retrouvent dans une pratique où tout est oublié, tout est effacé, on est passé par-dessus tout pour nous réunir autour de quelque chose que nous sentons important, aussi important pour tous.
Quel type de personne, dans votre expérience d'enseignant, a le plus de difficultés à embarquer dans cette méthode?
Ma réponse jaillit tout de suite, c'est les intellectuels.
je suis dans un prix.
Ah oui. Et plus on est intellectuel, plus on a du mal à pénétrer dans cette chose-là. Et j'ai même eu des physiciens, des professeurs d'université en physique, donc qui sont au sommet de cette recherche, qui touche presque du doigt le chi. Actuellement, la recherche fondamentale en physique est en train de découvrir le chi par un autre biais, évidemment, par la recherche à partir de la matière, ils arrivent à toucher le chi, qui est quelque chose de non matériel. Eh bien, c'est ceux-là qui ont le plus de mal à bouger et à sentir ce chi sur lequel ils travaillent déjà.
Les professeurs tournesol, c'est pas très fort en tai chi. Non. Vous l'avez dit, vous avez écrit plusieurs livres. J'aimerais qu'on en parle dans ce qui nous reste d'émission ensemble. Le dernier s'appelle La Voix. Merci, on va enlever un petit peu les cafés qui sont sur la table. La Voix de l'énergie, c'est chez Dangle, en Europe. Il y a Le Penseur redressé, mais c'est un livre qui en cache un autre, parce que si on le tourne de côté, il y en a un autre écrit dans l'autre sens, qui s'appelle...
La Gnosée.
Il y a La Voix du Tai Chi Quan, La Biosophie, qui est une tentative de marier Orient et Occident, finalement.
Disons de concilier.
D'accord, on va changer de mot. Oui. Orient et Occident. Donc, la philosophie et ses techniques orientales. Et médecin devenu guérisseur, ça s'adresse surtout aux médecins?
Ça s'adresse aux médecins, mais ce n'est pas les médecins qui étaient les lecteurs les plus assidus.
Bien sûr. Trop intellectuel, vous me direz. J'aimerais qu'on prenne un de ces livres-là. Je l'ai feuilleté. Je n'ai pas lu vos livres. J'ai bien l'intention de le faire, toutefois, parce que ça me passionne. Et je cherche dans Le Penseur redressé, il y a au début, dans la table des matières, un certain nombre de sujets que je voudrais aborder avec vous. Vous les commentez brièvement ou longuement, selon ce qui vous semble bon. Je vois que vous avez un chapitre là-dedans qui est « Je me souviens ». Comme c'est la devise du Québec, on se demande qu'est-ce que vous...
Je ne savais pas quand j'ai écrit ça, je ne savais pas.
Et ça traite de quoi, « Je me souviens »
Mais... Je me souviens de mon maître. Je commence ce livre en parlant d'événements de la guerre, en parlant de, je dirais, ma catastrophe du moment où j'ai expérimenté la férocité de l'homme. Et c'est par un regard que j'ai rencontré que je me suis souvenu d'un autre regard. Il faut dire que je parle là d'un moment où je me cachais dans les ruines de la ville bombardée où je me trouvais à cette époque-là. Je me cachais, et où parfois il m'arrivait de hurler de douleur, de souffrance après un événement dont je parle dans Médecin devenu guérisseur, où vraiment ma jeunesse s'arrêtait, s'achevait, ma vie s'achevait, l'écroulement de tous mes croyances, mes idéaux, etc. Et je me trouvais donc dans les ruines de cette maison, je me cachais, et il m'arrivait de hurler de douleur. Et puis, un homme est venu à traverser, s'est frayé un passage dans ces ruines, à traverser ces monceaux de gravats pour venir porter secours à un chien qui croyait être coincé dans les ruines de cette maison. Nous nous sommes trouvés face à face, il m'a regardé comme ça, et il m'a dit, ah, je croyais que c'était un chien. Il m'a tourné le dos, il est parti. C'était ce regard-là qui m'a fait penser à un autre regard, celui de mon maître. Et c'est ça le chapitre, je me souviens de mon maître, je me souviens de cette infinie bonté, de cette volonté farouche de m'aider, de me porter, de me donner, de me transmettre cet enseignement que j'essaie maintenant à mon tour de transmettre.
J'y vais selon mon intuition parce que des choses m'attirent plus que d'autres, personnellement plus que d'autres. Mm-hmm. Le non-sens de la vie.
Ah, mais écoutez, c'est difficile de parler comme ça. J'aimerais bien avoir moi le livre en main.
Le voici, c'est le vôtre.
Attendez.
Alors, le non-sens de la vie...
Les problèmes avec...
On va régler avec le casque.
C'est ça.
Vous commencez avec votre chapitre en disant « Dans le monde des mots, la vie n'a aucun sens ».
Oui. Hein? Oui.
Alors, je vous le passe, votre bouquin. Mm.
Donc...
C'est là qu'on voit que vous êtes vraiment un maître de tai chi, parce que quand on vous confronte à vos mots, c'est plus difficile d'aller chercher vos mots que nous parler de l'exercice du tai chi. Comme quoi, ce n'est pas des mots intellectuels.
Oui, je ne suis pas un intellectuel. Non, je pense que je dois abandonner le livre. Et vous parlez comme ça.
Répondez-moi alors à la question fondamentale. Pour vous, la vie, elle a un sens ou pas?
La vie?
Oui.
La vie n'a pas besoin d'avoir un sens.
Voilà la réponse.
La vie est son propre sens, sa propre raison d'être. La vie, c'est tout. En dehors de la vie, il n'y a rien. Rien. Et voilà ce que je disais. Il s'agit toujours d'un agencement de mots grâce auquel le monde a un sens. Et puis, il y a la vie. L'homo sapiens blablablans est un être vivant. La vie est un fait qu'il ne peut pas ignorer. Malgré tous ses efforts, depuis Dieu sait combien de millénaires, pour faire entrer la vie dans son univers de mots, ça n'a jamais marché comme il l'aurait voulu. La vie y rentrait parfois, oui, mais au pas d'éléphant, en piétinant sans égal Limoges de la science, de la religion ou des traditions. La vie est là.
Oui, c'est ça, c'est le non-sens de la vie, c'est qu'il n'y a pas le sens, la seule raison d'être de la vie, c'est de se perpétuer, c'est de vivre.
C'est, voilà, défendre et propager la vie, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout.
Et c'est essentiel de savoir, d'incorporer cette réalité pour arriver à être heureux dans l'instant, comme vous l'avez dit.
Exactement, exactement. Si on ne cherche pas autre chose que la vie même, si le but de la vie est la vie, si la valeur suprême de toute recherche est la vie même, à ce moment-là, tous les problèmes tombent. À ce moment-là, il n'y a plus de problème.
Vivre dans l'instant, comment un sage comme vous réagit à cette société de consommation?
J'en parle justement.
Vous avez dans le supermarché, là?
Oui, c'est ça. J'en parle. Et je me permets d'avancer des propositions, des solutions qui, évidemment, ne reposent pas du tout sur la logique du marché, sur la logique de l'économie politique, etc., etc., mais qui reposent sur la logique pure et simple. Observez que dans la nature, il y a là aussi l'offre et la demande. La demande est toujours satisfaite, l'offre est toujours présente, et personne ne travaille pour gagner sa vie. Pourquoi l'homme devrait-il mériter sa vie? Il n'a qu'à se servir comme tout le monde. On montre à la télévision plus d'une fois des instants où le prédateur chasse et attrape sa victime. C'est l'offre et la demande. Et au moment où le prédateur a saisi sa victime, la victime s'offre. Il n'y a plus de lutte, elle ne lutte pas, elle se donne. C'est comme ça, c'est ça la vie. Une belle pomme est une invitation à manger. Et la cuisse d'un chevreuil l'est aussi. Tout ça subit un ordre qui est la vie même. Pourquoi? Dans cette organisation parfaite, l'homme seul devrait-il travailler, peiner, lutter, s'entretuer pour vivre? Je pense que on devrait organiser, aujourd'hui c'est tout à fait possible, organiser l'économie mondiale de façon à ce que tout le monde se serve de tout. Comme on respire, comme on marche dans la rue, comme on fait n'importe quoi, on boit l'eau, etc.
Alors, qui va fabriquer tous ces objets dont
mais
on a
tout le monde, mais tout le monde.
Si on n'a pas besoin de travailler, pour qu'on y va faire on s'enfermerait dans une usine à faire des voitures.
Ben justement, on n'a pas besoin de voitures. On produit
on
les choses.
On est à Percé, c'est loin, Percé sans voiture. Vos élèves sont ici parce qu'ils ont des voitures.
Oui. Tout ça, ça demande une réorganisation complète de toute la civilisation. C'est ça que je mets en cause. Mais pas gratuitement. Cette civilisation a abouti aujourd'hui à une impasse. La planète va être détruite. C'est pas moi qui le dis. C'est les scientifiques du plus haut niveau qui le disent. Dans peu de temps, il n'y aura plus de vie sur cette planète. Autrement dit, notre civilisation a abouti au point final, c'est-à-dire la destruction de tout, de toute vie. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Je l'ai dit dans la Gnosée. Je cite des scientifiques du plus haut niveau qui le prédisent, qui le prévoient avec une grande précision. Il est impossible qu'il en soit autrement. Nous allons vers la destruction de la planète. Mais est-ce que c'est ça le résultat final d'une civilisation? Alors arrêtons cette civilisation. Faisons autre chose. Non pas revenir en arrière, parce que ça signifierait recommencer tout à nouveau pour revenir au point où nous en sommes. Mais changer de cap, faire autre chose. Quoi faire? Mais exactement ce que la vie demande, ce que la vie nous offre. Suivre le courant de la vie et c'est tout. Et à ce moment-là, toute la production, toute l'organisation sociale, tout est en faveur de la vie et c'est très simple.
C'est très simple, mais je vous pose une objection et pas plus. Que soulève sûrement plusieurs personnes, celui de la santé par exemple. Est-ce qu'on renie pour autant à toute la technologie moderne de la médecine qui peut prolonger nos vies et qui demande du travail et de l'investissement, bon, de la technologie?
Eh bien, ma réponse est très simple. Apprenez à mobiliser le chi, apprenez à travailler avec le chi, vous n'aurez plus besoin de médecine.
C'est gros ce que vous dites là.
J'en suis l'exemple vivant, présent, et je ne suis jamais malade. Et quand j'enseigne à mes élèves, je leur dis ceci. Mes enfants, Le jour où vous me verrez enrhumé, vous pouvez me traiter de menteur. Même pas enrhumé, jamais rien. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait, même pas la fatigue. C'est très simple, on se repose avant d'être fatigué. C'est ça la façon de se défendre, c'est ça la façon de vivre. On ne se suralimente pas, on ne se surmène pas.
C'est votre exemple à vous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui pratiquent votre discipline du tai chi et qui arrivent au même résultat?
Ça, c'est la question piège.
Bah,
c'est
oui,
la question
bien sûr, piège. J'allais pas la rater, non?
Je peux affirmer que tous ceux qui ont suivi mon enseignement, tous ceux qui ont fait les choses que je recommande, ont vu leur santé s'améliorer beaucoup. Mais j'en connais peu qui sont arrivés vraiment à une maîtrise totale. Parce que ça demande du temps, parce que ça demande un engagement plus profond et peu de personnes l'ont fait vraiment. Néanmoins, si ça ne reste que théoriquement possible, il faut exploiter cette possibilité. Il faut aller dans ce sens-là. On peut vivre sans être malade. Même dans notre civilisation, on peut choisir un mode de vie où on évite la pollution, où on évite... Mais, puisque nous en parlons, je vous citerai l'exemple de ce qui est arrivé ici, à Montréal, il y a quelques années, où je suis venu donner un stage. J'avais donné déjà un stage à la campagne, qui était merveilleux, c'était vraiment extraordinaire, et je devais donner encore une semaine de plus au professeur de Tai Chi Chuan de Montréal, dans la ville même. Je me suis senti mal dès le premier jour. Il y avait une pollution telle que c'était incroyable. Comment peut-on vivre dans une pollution pareille? C'était le plein mois d'août, il n'y avait pas de vent, il y avait une pollution insupportable. Je me suis senti mal, j'ai commencé à avoir des maux de gorge, je parlais comme ça, etc. Je me sentais faible. Et puis, un jour, deux jours, le troisième jour, il y avait des personnes, des médecins dans l'assistance qui disaient, mais je vais te donner un médicament, tu es malade, il faut te soigner, etc. Je dis non. Je ne suis pas malade, moi, c'est votre ville qui est malade. Je m'en vais. J'ai pris l'avion, je suis parti. Dans l'avion, déjà, je me sentais mieux. Dès que j'avais quitté cette pollution, je me suis senti mieux et c'était fini. Je n'étais pas malade. Je réagissais contre la pollution qui, elle, est une maladie. Et je dis, on peut, en évitant donc ces centres surpollués, on peut encore toujours vivre dans notre civilisation. Mais pas pour longtemps, pas pour longtemps.
Je retiens au moins de ce que vous dites, je sais qu'il y a des énormes difficultés sociologiques à vivre ce que vous prêchez, parce qu'on ne peut pas déménager la ville à la campagne, et c'est des millions de personnes qu'il faut déménager, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Bon, peut-être des initiatives individuelles, mais sûrement pas globalement. Mais je retiens de ce que vous avez dit, se reposer avant d'être fatigué, on ne sera jamais fatigué à ce moment-là.
Mais évidemment.
Je n'y avais pas pensé, mais c'est pas bête, ça.
Mais les villes, on ne doit pas les déménager à la campagne, mais dans les villes, on peut faire autre chose que de surpolluer, de surconstruire, etc. On peut aménager des espaces verts, on peut faire des choses extraordinaires. Ça a existé autrefois. Il y avait des avenues avec des arbres innombrables. Aujourd'hui, il n'y a que des parkings. Comment voulez-vous vivre là-dedans?
Parlez-nous un peu, il y a votre femme qui n'est pas loin, et Colin est disparu, le petit garçon. Vous allez vous installer maintenant, faire votre institut, votre objet de recherche là, pour recevoir vos gens au Portugal. Où exactement et pourquoi le Portugal?
Mais le Portugal en Europe est, je crois, le dernier pays où il n'y a pas encore cette pollution catastrophique. Nous avons cherché en Europe et en Amérique du Sud des pays où installer notre centre. Notre école se développe rapidement, elle devient vraiment une école importante, mondiale, et nous cherchons un centre ou un endroit où créer ce centre. Nous avons choisi le Portugal finalement, après avoir cherché longtemps, plusieurs années, sur plusieurs continents. Le Portugal d'abord parce que c'est l'Europe et que c'est plus proche de notre point de départ, et ensuite et surtout parce que c'est le dernier, je pense, le dernier pays d'Europe qui n'est pas surpollué, où c'est encore, la nature est encore naturelle, et où le sol, la terre est encore vivante. C'est des notions qui sont inconnues dans notre civilisation. La terre, c'est la source de la vie. La vie de la terre, on peut la sentir. Et hélas, dans de nombreux endroits où je suis passé, j'ai senti la terre morte. J'ai senti la terre morte. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une conférence que j'ai faite la terre morte ou la voie de la vie. L'un ou l'autre, ou bien on suit la vie, ou bien c'est la terre morte. La mort, c'est définitif, c'est irréversible. Et donc, c'est au Portugal que nous avons trouvé encore la terre vivante, la terre encore où on peut développer un Taikichuan différent, où l'épanouissement de cette énergie est favorisé par tous les éléments de la nature. Et donc, c'est là que nous nous sommes installés et c'est là que nous sommes en train maintenant de construire
c'est
un centre.
C'est un grand domaine que vous avez là-bas?
Il n'est pas très grand, mais disons que, oui, pour les notions européennes, c'est grand. Au Canada, évidemment, avec les espaces immenses que vous avez, c'est tout petit.
Là, vous pourriez recevoir beaucoup de
monde. Oui, on peut recevoir beaucoup de monde et donc nous prévoyons donc, de nous installer là-bas et de faire dorénavant nos grandes rencontres là-bas.
Le temps de cette rencontre s'achève un peu à percer, où la température est toujours aussi beau. Le vent se lève toutefois un petit peu. Je voudrais en terminant, Vladi Stevanovitch, que vous nous parliez un peu d'amour.
L'amour. Mais je dirais d'abord que c'est le premier phénomène de la vie, c'est l'amour. La vie est un amour. La vie même est un élan d'amour. Et c'est ça la grande découverte. Lorsqu'on pénètre au fond de la vie même, lorsque on pénètre à la source de la vie, de comprendre que c'est un élan d'amour, d'abord. Ensuite, ça devient peut-être un affrontement, ça devient peut-être un instant de possession, etc., tout ça. Mais à l'origine, au fond, c'est d'abord un élan d'amour. J'ai écrit un chapitre dans Le penseur de redresser, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai écrite, de l'amour. J'essaie d'expliquer, j'essaie de dire ce qu'est en fait l'amour. Et l'expérience de cet amour-là est quelque chose qui ouvre la vie, qui ouvre complètement la vie à toutes les possibilités où plus rien n'est refusé. L'amour inconditionnel et l'amour ouvert, l'amour non exclusif, l'amour qui s'ouvre à tout et à tous. Il y a l'expérience de la maman. La maman, quand elle est jeune, elle a un enfant, c'est son enfant. Puis elle en a un autre. Elle se rend compte qu'elle est capable d'aimer autant le deuxième que le premier. Puis elle en a quatre ou cinq, ils sont tous ses enfants. Puis ensuite, ça devient la grand-mère, qui aime non seulement ses enfants, mais ses petits-enfants. Et ensuite, ça devient la dame âgée, sage, qui aime tout le monde, pour qui tous les humains sont ses enfants. C'est cet amour-là qu'on découvre, cet amour ouvert, cet amour illimité, qu'on découvre en faisant la recherche que nous faisons.
Êtes arrivé, vous, à cet amour d'une grand-mère, là?
D'un grand-père, oui.
D'un grand-père, oui, bien sûr.
Oui, j'y suis arrivé depuis longtemps, et pour moi, il y a une équivalence. Tous les humains sont mes enfants, mes frères, mes semblables, mais tout ce que vous voudrez, sont l'objet d'un amour illimité, inconditionnel.
Ça ne vous empêche pas d'être agressif parfois?
Oh non, mais justement, parce que j'aime, parce que je défends la vie, que je suis agressif, que j'agresse ceux qui l'agressent. Les ennemis de la vie sont mes ennemis, et je les combats, bien entendu.
En terminant, vous avez eu une formation longue de musicien, on en a parlé. Vous avez travaillé sur l'énergie d'abord en fonction de la musique. Suggérez-nous une pièce musicale qu'on écoute à la fin de cette émission et qui corresponde un peu à vos sentiments sur l'énergie.
ça serait vraiment très difficile. Je dois vous dire qu'il y a fort longtemps que je n'écoute plus la musique, que je ne suis plus musicien du tout. Je n'écoute pas la musique, j'ai oublié la musique. Pour moi, la musique, c'est tout autre chose maintenant.
C'est quoi?
C'est le son, un seul son plein, un seul son de vibration, quelque chose qui n'est plus un discours, qui n'est plus un langage, qui est simplement une vibration. C'est ça la musique pour moi maintenant.
Oui, qui est plus de rapport avec la nature alors.
Évidemment, qui est vraiment la nature même.
Alors c'est ce que nous écouterons. Merci Vladi Stevanovitch.
Merci.